Aujourd'hui, on finit notre discussion, on va dire, sur la Trinité. On a déjà parlé de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et aujourd'hui, on va parler de Dieu le Saint-Esprit. Donc, le sujet est très vaste et je ne donne pas toutes les choses qu'on peut connaître du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses, mais je focalise un petit peu sur la globalité de cette doctrine qui est très important pour nous en tant que croyants en Jésus-Christ. J'aime pas mal d'arrière-plan quand même. On a vu chaque semaine, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et tout de suite, dans le verset 2, Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc déjà dans la première page de la Bible, on invoque que Dieu est plus qu'un simple homme plus grand. Il est Dieu, il est le Créateur et il est complexe. Dans le chapitre 1 aussi, dans le verset 26, nous lisons, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » La complexité de Dieu. Il n'est pas simple, il est complexe. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand on parle de Dieu et on parle de du Saint-Esprit, on a ce mot qui vient en premier, saint. Dieu est saint. Le Créateur Dieu est saint. La Trinité donc est saint. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est saint. Et c'est très important qu'on comprenne cette idée de la sainteté de Dieu. On ne va pas approfondir ça aujourd'hui, mais c'est simplement pour dire, Dieu est séparé de tout péché. Dieu n'a en lui aucune ténèbre. Il est séparé de ces choses-là. Pourtant, aujourd'hui, un des grands problèmes graves dans le christianisme, ça fait partie de l'apostasie des temps derniers, les derniers jours, eh bien, c'est tout ce mouvement qu'on pourrait appeler le spiritisme chrétien. C'est des pratiques occultes qui sont redéfinies comme étant les pratiques chrétiennes. Ce mouvement abîme l'image de Dieu, du Dieu saint, et ternisse sa réputation par association avec les œuvres des ténèbres. C'est un genre de blasphème. C'est pas bien. Et pourtant, une grande partie du christianisme aujourd'hui est tombée dans cet spiritisme. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous, c'est-à-dire nous les croyants en Jésus-Christ, renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la vraie connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, l'idée, c'est que Dieu veut que les chrétiens soient zélés pour la spiritualité véridique telle que décrite dans sa parole. Donc, nous, on veut que nos chrétiens soient éduqués, soient bien au courant de ce que dit la parole de Dieu. Il y en a d'autres christianismes qui veulent que les chrétiens soient ignorants, qui ne connaissent rien ou très peu, ou juste suffisamment pour mettre l'argent dans le tronc. C'est pas nous. Hein? On voudrait connaître la parole de Dieu pour être des véritables chrétiens. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est surtout le Père qui est en vue. Ce qui n'empêche pas que, beaucoup de temps, on voit aussi le Fils. Et souvent, quand on parle de l'Éternel, donc de Jéhovah, de Yahvé dans l'Ancien Testament, on va voir que dans le Nouveau Testament, ces versets sont appliqués au Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Dieu le Père est surtout la vision de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a quand même le Fils. Et il y a, comme on a déjà vu, aussi le Saint-Esprit qui est un petit peu ici et là en vue dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la Trinité, mais surtout on voit le Fils de Dieu à travers les quatre évangiles, et aussi dans l'accomplissement de l'évangile pour notre salut. La grande partie du Nouveau Testament, ça parle du Seigneur Jésus. Ça n'empêche pas qu'on voit le Père ici et là, et on voit aussi le Saint-Esprit. Mais pour le salut, à comprendre, avant qu'on parle du Saint-Esprit, le salut, Jésus-Christ, sur la croix, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, tout est payé. Il n'y a plus rien que nous pouvons faire, que personne ne peut faire, que Dieu même pourrait faire. Dieu a tout fait. Et il était entièrement satisfait par l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix. Donc maintenant, le salut est offert à tous. Et le croyant reçoit le salut, non pas en payant quelque chose, mais en recevant un don gratuit par la foi. Et à partir de ce moment-là, la personne est sauvée et il est sauvé pour l'éternité. À partir du moment qu'une personne est sauvée, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, eh bien, il prend la place de prédominance dans la vie du croyant. Okay, on va revenir sur ce thème tout à l'heure. Donc, j'ai parlé de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Maintenant, dans les deux Testaments, le Saint-Esprit combat contre le mal et le péché. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 6 et verset 3. Genèse 6, 3. Alors, l'Éternel dit, Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, qui peut être traduit aussi, ne combattra pas indéfiniment avec l'humanité. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Aussi dans le Nouveau Testament, nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui retient, c'est-à-dire ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui, donc ce n'est pas ce, mais c'est celui, c'est une personne qui le retienne, qui empêche que l'Antichrist se manifeste, qu'il en retienne encore et disparu ou, si vous voulez, soit retiré. Et en parlant du Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui empêche le mal à manifester dans le sens le plus possible. Mais vous savez bien, à l'époque de Genèse chapitre 6, l'époque de Noé, le péché est arrivé à la cime. C'était le maximum et Dieu ne pouvait plus le supporter. Comme aussi dans l'avenir, ce sera pareil. Alors, depuis toujours, c'est le Saint-Esprit qui révèle Dieu aux hommes. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, je ne vais pas toujours donner les références bibliques parce que ce sont des grands thèmes et on n'a pas vraiment le temps pour voir tous les détails. Mais quand on parle de l'inspiration des Écritures et la révélation de Dieu, Jésus-Christ est la parole, mais la parole écrite, l'inspiration, donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi, le Saint-Esprit est la source de la conception du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on parle de Noël, on parle du Saint-Esprit. Je vais vous lire dans Luc chapitre 1, à partir du verset 34. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela fera-t-il? Comment est-ce que je vais être enceinte? Puisque je ne connais point d'homme. » Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, donc en parlant du Père, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc le Saint-Esprit est impliqué dans l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit donc le Saint-Enfant qui sera né, donc le Fils de Dieu, on voit le Très-Haut, le Père, et on voit le Saint-Esprit. Donc, on voit ici dans ce verset la Trinité. Aussi, le Saint-Esprit était la force dans la vie terrestre du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 10 et verset 38, nous lisons. Actes chapitre 10 et verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous voyons aussi dans Romains chapitre 1, verset 4, que le Saint-Esprit a participé dans la résurrection du Seigneur Jésus. Romains chapitre 1 et verset 4. Donc, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il était déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, donc le Saint-Esprit, par sa résurrection d'entre les morts. Après la résurrection, après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit a été envoyé aux croyants par le Père en réponse à la demande de son Fils. Okay? Donc, on a déjà fait plusieurs études sur Jean chapitre 14, 15, 16 et 17, où Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit en tant que consolateur. Donc, on ne va pas revenir sur ces choses-là, mais c'est là que Jésus a promis qu'il allait envoyer le consolateur. Et dans Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, versets 26 et 27, nous lisons, donc c'est Jésus, attends.
Quel verset, s'il vous plaît? Septième.
Attends, je crois que je me suis trompé le livre. Attends. Je crois que c'est Jean chapitre 15 et j'ai écrit Acte. Alors, chapitre 15, verset 26. Oui, c'est Jean, excusez-moi. Jean chapitre 15 et verset 26, c'est l'évangile de Jean. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit, allez rendre témoignage de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc ça, c'est dans ces grandes quatre chapitres de Jean. Aussi dans Actes chapitre 2, donc Pierre parle et il dit que Jésus-Christ était élevé par le droit de Dieu, donc c'est la résurrection et l'ascension, donc Jésus aujourd'hui est à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ça c'est le jour de la Pentecôte, et donc dans les lieux célestes, Jésus étant arrivé, a parlé avec son Père, et ils ont envoyé, d'après les prophéties, le Saint-Esprit qui est descendu pour faire tout un tas d'œuvres que nous allons bientôt voir. Donc, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit agit dans plein de domaines. Okay? Premièrement, par la conviction du péché. Donc, il agit chez les gens, surtout quand vous partagez la parole. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on partage la parole de Dieu, Dieu agit dans les gens. Il est convaincu de leur péché et leur besoin du salut. Le Saint-Esprit agit par l'appel à la conversion. Donc, premièrement, il est convaincu de leur péché et par la suite de leur besoin et il encourage qu'ils viennent à Dieu. L'appel à la conversion. Le Saint-Esprit agit par la régénération. Donc, la régénération, c'est un grand mot pour dire la nouvelle naissance. D'accord? La régénération et la communication de la vie éternelle. On peut lire ça dans Acte. J'ai oublié de dire. Donc, il est aussi actif dans l'évangélisation. Et là, on peut le lire dans Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que le Saint-Esprit, il est actif dans l'évangélisation. Il est aussi actif dans l'application de l'évangile en celui qui croit, et par cela, je veux dire, il applique le salut aux croyants. C'est le Saint-Esprit qui prend en charge le nouveau croyant, et il continue à être actif dans la vie du croyant à travers le restant de sa vie et jusqu'à dans l'éternité. Parce que Jésus a dit qu'il sera avec nous éternellement. OK? Donc, une autre chose que le Saint-Esprit a fait, voilà, dans le passé, il a ouvert le corps de Christ pour recevoir les croyants. OK? Donc, le jour de la Pentecôte, dans l'année 30, donc c'était 7 semaines après la crucifixion et la résurrection, le Saint-Esprit a commencé l'œuvre de la formation, faire croître le corps de Christ. Premièrement, en mettant le corps les Juifs, après les Samaritains, et par la suite, le monde païen. Alors, vous avez entendu cette phrase, « Hors l'Église, pas le salut ». Hein, c'est une phrase très catholique, n'est-ce pas? Alors, la réalité, c'est « Hors Christ, il n'y a pas de salut ». OK? Ça, c'est presque un verset biblique. Ce n'est pas un verset biblique. Mais il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est que Jésus-Christ. Et on a déjà parlé de ça tout à l'heure. Parce qu'il est le seul qui est Dieu, qui est devenu un homme, qui peut être médiateur, qui a payé le prix, etc. OK? Alors, je vous explique un tout petit peu cette chose. Donc, au 3e siècle, un pasteur, je pense qu'il s'appelle Cyprien, il a transformé cette idée que le salut est uniquement dans le Christ, donc en pensant au corps de Christ, où sont tous les sauvés, dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Eh bien, il a transformé cette phrase « Hors l'Église, pas de salut ». C'est-à-dire « Hors Christ, pas de salut », à l'époque là, il y a 17 siècles. Et quelque part, il a raison. Si on ne passe pas par Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Il n'y a qu'un seul chemin. Mais une fois qu'il a dit ça, une fois qu'il a dit « Hors l'Église, pas de salut », eh bien, les siècles sont passés et l'idée était transformée pour dire « Hors l'Église de Rome, pas de salut ». Il n'y a pas de salut, on prétendait dans le temps, en dehors de l'Église de Rome. C'était que l'Église de Rome qui pouvait sauver les gens. Et cette fausse idée était souvent utilisée pour manipuler les gens. Même les gouvernements, même les rois. Parce que les gens voulaient être sauvés. Mais la tradition a mis cette institution entre les hommes et Dieu. Et à leur guise, ils retiraient ou offraient, faussement bien sûr, le salut. Donc, à comprendre bien, Jésus seul est le sauveur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viennent au Père que par lui. On ne peut être sauvé que par le Seigneur Jésus-Christ. Et il a déjà fait tout le nécessaire il y a 2000 ans. Il faut simplement croire aujourd'hui pour être sauvé. Il n'y a aucune église qui peut vous aider. Il n'y a aucune personne autrement que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de rite religieux ou rien. Il y a la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je vais parler des œuvres du Saint-Esprit, mais les œuvres éternelles et les œuvres, on va dire, continues. D'accord? Donc, il y a quelques œuvres éternelles en faveur du croyant. Donc, au moment même de croire, croire en Jésus-Christ, il y a plusieurs activités spirituelles qui sont opérées simultanément par Dieu. OK? Donc, le Saint-Esprit, en parlant du Saint-Esprit. Et donc, je souligne le mot « simultanément ». Donc, on peut mettre l'ordre comme on veut parce que c'est tout en même temps. D'accord? À comprendre qu'on ne ressente pas du tout ce que Dieu fait dans les lieux célestes. Ce n'est pas une émotion. Sans parfum. Hein? On ne ressent rien du tout. C'est dans le niveau du domaine spirituel. Premièrement, il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc là, c'est un sujet qui est débatté aujourd'hui à cause de certaines choses. Mais l'idée, c'est que voilà, on est immergé dans le corps de Christ. Qui fait cette activité? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il place ou il immerge totalement chaque croyant dans le corps de Christ. Et bibliquement, ceci est le baptême du Saint-Esprit. Il incorpore dans le corps de Christ, le croyant. Et on a 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, qui explique cette idée. Nous avons tous, en parlant des croyants en Jésus-Christ, nous avons tous, en effet, été baptisés, donc immergés, dans un seul esprit, et cette phrase « dans un seul esprit » se traduit par le même unique esprit pour former un seul corps. Donc ce mot « du », le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'instrument du baptême. C'est lui qui agit. Okay? Ceci signifie que depuis le moment du salut, Dieu donne à chaque croyant sa place dans le corps de Christ et les fonctions qui sont reliées à sa place, qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. En même temps, le Saint-Esprit prend résidence dans le croyant. Il habite en nous. Romains chapitre 8, verset 9. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas en nous le Saint-Esprit, c'est qu'on n'est pas croyant. Notez bien que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur quelqu'un pour faire une œuvre, pour faire l'œuvre de Dieu. Il venait et puis il partait quand l'œuvre était accomplie, quand le service était accompli. Et quand Jésus était là, il a dit que le Saint-Esprit n'était pas encore donné aux croyants. Attendez, a-t-il dit un peu plus tard, quelques jours à Jérusalem, vous allez recevoir la promesse. Et puis, le Saint-Esprit était donné le jour de la Pentecôte. Désormais, le Saint-Esprit réside, comme j'ai dit tout à l'heure, éternellement dans chaque croyant. Il est l'Esprit de Christ en nous, la présence promise. Aussi, en même temps, le Saint-Esprit opère, c'est lui qui fait la fonction, il cause que la personne soit régénérée. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle naissance, être né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est cette naissance dans la vie divine et c'est la communication de la vie éternelle. Donc, il faut comprendre quand on parle de la vie éternelle, que la vie éternelle ne peut jamais être révoquée. Donc, comprendre de défaire ou de revoquer une chose éternelle est un contresens. Okay? Imaginez, on vous demande à dessiner un cercle en forme de carré. C'est un contresens. Un carré, il y a des degrés. 80 degrés, 4 fois, et chaque mesure est identique. Un cercle, 360 degrés, comme ça. Okay? On ne peut pas faire un carré en cercle ou un cercle en carré. Ça n'existe pas. C'est un contresens. Et dire que la vie éternelle est courte ou retranchable est un contresens. C'est dire que Dieu peut cesser d'exister parce que Dieu est éternel. Ce qui est éternel. Okay? Et c'est pour cela que la Bible n'en parle pas beaucoup de ce sujet-là, parce qu'il dit la vie est éternelle. Il faut y croire. Il faut l'accepter. C'est comme ça que Dieu l'a présenté. J'ai déjà mentionné, mais on reçoit la présence éternelle du Saint-Esprit. Et par donc, toutes ces choses, la régénération, la présence du Saint-Esprit et l'immersion dans le corps de Christ, le croyant est identifié avec Jésus. Il est notre frère. Nous sommes enfants de Dieu. Notre identité, on peut être maçon, on peut être caissier, on peut être n'importe quelle chose dans la vie, mais on est surtout enfant de Dieu. On a les droits et les devoirs étant enfant de Dieu. Et puis aussi le Saint-Esprit, il sert de gage, de art, de preuve et de sceau pour montrer que Dieu s'est engagé envers la personne. Donc ça c'est aussi un peu la raison qu'on ne peut pas dire que la vie éternelle peut être retranchée ou retirée. Parce que ça fait de Dieu un menteur qui s'est donné un gage, promesse de la vie éternelle. C'est les contresens que les gens disent. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Après, il y a les œuvres qui sont non terminées. Les œuvres qui continuent. D'accord? Tout ce que je viens de dire là, c'est les choses que Dieu a fait. Au moment qu'on a cru en Jésus-Christ, c'était fini. OK? Maintenant, il y a des choses, au moment qu'on a cru en Jésus-Christ, qui démarrent. OK? Maintenant, je parle de ces choses-là. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est l'avocat. Il est le conseiller. Il intercède sans cesse pour nous. C'est les choses que Dieu a commencées au moment qu'on a cru en Jésus, mais il ne s'arrête pas de le faire. Il y a l'idée que Dieu nous remplit. On dit la plénitude du Saint-Esprit. En Éphésiens 5, 18, on a l'instruction, le commandement, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc, il y a une différence. On est baptisé par le Saint-Esprit pour être mis dans le corps de Christ. C'est une activité unique au début de la foi, hein, au moment qu'on a cru en Jésus. Et puis, à travers toute notre vie, il dit « Soyez remplis ». C'est deux choses différentes, le baptême et la plénitude. Il y a la sanctification, Galates chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit ». Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, il veut qu'on marche d'après ses conseils. Nous faisons aussi tous des progrès en sanctification dans la vie quotidienne à long terme. Donc, on voit là, c'est dans Romains chapitre 12, surtout le second verset, mais je vais lire verset 1. « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. » Donc, ça, c'est Romains chapitre 12, verset 1. Et au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça, c'est ce qui se passe à travers notre vie chrétienne. Le plus qu'on permet à Dieu de transformer nos pensées, et le plus qu'on peut marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui confondent le progrès en sanctification avec le moyen de salut. Notre progrès en sanctification ne va pas ajouter à notre salut. Ce n'est pas par notre vie chrétienne que nous allons pouvoir nous sauver. Ça ne marche pas comme ça. Le salut était accordé définitivement. Je lis en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, ça parle du salut. Après, dans le verset 10, il parle de la sanctification. Verset 10, le progrès en sanctification, car nous sommes son ouvrage. Donc, né de nouveau, une nouvelle création, on devient un ouvrage de Dieu qui va travailler à travers tout le restant de notre vie terrestre. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous les mettions en pratique à travers de notre vie. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et puis on pense, ah ben voilà, il faut travailler pour être sauvé. Non. Il veut dire, mettez en œuvre votre salut avec un sérieux complet. Dieu nous a sauvés, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a une nouvelle vie, une nouvelle création. Que faire avec tout ça? Donc, il nous avertit aussi de certaines choses. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit et n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas mettre des obstacles à l'œuvre de Dieu pour éteindre ce que Dieu veut faire. Et il ne faut pas pécher, il ne faut pas être insoumis. Et quand on a péché, Il faut reconnaître, il faut confesser nos péchés pour que Dieu nous purifie de tout péché. Quand nous marchons avec Dieu dans la lumière de sa parole, le Saint-Esprit continue à nous enseigner et illuminer par sa parole, à nous diriger et nous donner des conseils par sa parole, à nous rassurer par sa parole. Et nous, au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, nous rendons service à Dieu, nous rendons reconnaissance, louange, nous rendons à Dieu la prière, nous rendons à Dieu un service, c'est-à-dire par les dons qu'il nous a donnés. Donc je vais lire Romains chapitre 8 pour terminer. Ça résume un petit peu l'idée. Romains chapitre 8, versets 12 à 16, pour terminer. Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous vivons selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça résume un peu, c'est le Saint-Esprit qui est vraiment actif dans notre vie de croyant. Depuis le moment qu'on a cru jusqu'au moment qu'on va au ciel, c'est le Saint-Esprit en nous qui agit en notre faveur. Amen.